Bonsoir et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne et bonsoir à tous.
Eh bien, au sommaire de cette émission, dans la première partie, nous allons fêter l'anniversaire, les 70 ans d'une vieille dame. Vieille dame qui se porte quand même très bien. Et dans la deuxième partie, nous vous parlerons de quelques romans qui ont retenu notre attention en ce début d'automne. Donc, cette vieille dame, elle s'appelle la Série Noire. Et cette année, depuis le 1er janvier, on en fête ses 70 ans. C'est intéressant de fêter ses 70 ans, puisque dérouler l'histoire de cette collection des éditions Gallimard, je le rappelle, c'est un peu évoquer toute l'histoire du polar depuis 1945. C'est en effet en 1945 que Marcel Duhamel convainc Gallimard de créer une collection consacrée aux romans policiers. Il faut rappeler le contexte.
C'était Gaston à l'époque.
C'est Gaston Gallimard, tout à fait. Le contexte, c'est l'après-guerre. Les Américains, dans de nombreux endroits, se mêlent à la population française en leur apportant, pêle-mêle, les chewing-gums, le Coca-Cola, le jazz, et puis un certain goût pour l'ailleurs, pour un certain exotisme. Il faut aussi réaliser que devant la boucherie du conflit, devant les horreurs des camps, on a envie d'histoires où le bien et le mal sont clairement définis, où le bien triomphe du mal, et où un ou plusieurs héros se dressent contre la corruption, la pègre, les magouilles, contre le crime donc. Mais le contexte, c'est aussi la personnalité de Marcel Duhamel. C'est d'ailleurs un traducteur. Avant-guerre, il traduit William R. Burnett et le Petit César. C'est un contexte où il fréquente les milieux de Jacques Prévert, c'est un ami des surréalistes, c'est aussi un fan de jazz. D'ailleurs, il vit... Maintenant, on dirait en colloque avec Queneau, avec Tanguy. Il travaille aussi pour le cinéma, où il fait même l'acteur. On peut le retrouver dans certains films. Et, comme je vous l'ai dit, il traduit des romans, donc des auteurs américains, comme par hasard, Chandler, Dashiell Hammett. Il va donc entamer cette collection en 1945, qui démarre vraiment en 1948. Et en 1948, pour expliquer sa ligne éditoriale, il va publier un manifeste. En voici quelques extraits. Enfin, un extrait. L'amateur d'énigmes à la Sherlock Holmes n'y trouvera pas souvent son compte. L'optimiste, systématique non plus. L'immoralité admise en général dans ce genre d'ouvrage, uniquement pour servir de repoussoir à la moralité conventionnelle, y est chez elle tout autant que les beaux sentiments, voire de l'amoralité tout court. L'esprit en est rarement conformiste. Voilà, ça c'est dit. Numéro 1. Peter Cheney, La Môme Vert de Gris. Numéro 3, James Hadley Chase, Pas d'orchidée pour Miss Blandish. Je cite cela parce que ce fut les plus gros succès. Ces deux-là sont deux auteurs anglais. Mais, vu le contexte décrit précédemment, on va préférer les faire passer pour des Américains. On va même tenter d'américaniser les traductions. Et jusque dans les années 70, cette américanisation va prévaloir dans la collection. Ainsi, un grand auteur français, Jean Amila, va publier ses premiers romans sous le pseudo de Jean Meckert. Beaucoup plus exotique comme nom.
Jean Meckert,
ouais, je pense. Il y a aussi Terry Stewart, mais le véritable nom, c'est Serge-Marie Arquet. Ça, c'est beaucoup moins torride. Dans les premières séries noires, les premières années, c'est Marcel Duhamel qui va traduire vite les premiers. Mais bon, il y en a deux en 45, jusqu'en 48, ça va. Et puis, ça va s'accélérer, on va très vite en avoir une vingtaine. Une vingtaine par an, puis jusqu'à 60. Ça va être toujours des traductions de Duhamel, de ses amis. Au hasard, un numéro 8, je vous en reparlerai. Michel et Boris Vian, qui traduisent un roman de Chandler. Et, pour la petite histoire d'ailleurs, La Dame du Lac, ce roman... Elle a été retraduite, enfin non, justement, celui-là, il n'a pas été retraduit avec les autres quand il a été question de sortir un quarto de chez Gallimard avec une retraduction. La traduction de Boris Vian, on n'y a pas touché. On y aurait peut-être dû, mais enfin, bon. En tout cas, dans les années 50, le succès de la Série Noire est très rapide. C'est l'âge d'or du cinéma américain. Beaucoup de romans traduits sont de gros succès au cinéma. Le Faucon Maltais, John Huston... La Dame du Lac, Robert Montgomery, le fameux traduit par Boris Vian. On a aussi Assurance sur la mort, mise en scène par Billy Wilder. Et puis, il y a une autre chose, c'est que les romans sont très très bon marché. Et ils vont envahir les kiosques. Dès 1949, on a une trentaine de romans par an. Et puis, jusque dans les années 60, on va avoir de 55 à 72 titres par an.
Des fois 8 par mois. Donc.
Voilà. En conséquence, du très bon. Et puis du très mauvais. Une uniformisation des formats. Une série noire doit se lire en gros lors d'un trajet de train. Heureusement, le TGV n'existait pas encore. On est vraiment, à l'époque, ce qu'on a appelé, et ce qui malheureusement perdure un petit peu, littérature de gare. Des livres de distraction pure, pas forcément bien écrits, pas forcément bien traduits. Mais là-dedans, il faut piocher parce qu'il y a de purs chefs-d'œuvre. Exemple, le début du roman noir avec Moisson rouge de Dashiell Hammett. Mais aussi les premiers romans noirs de David Goodis, de John D. MacDonald, de James N. Cain. C'est aussi l'époque où tous ces auteurs, Raymond Chandler, Dashiell Hammett en tête, collaborent à des scénarios avec Hollywood. Donc on va avoir un constant aller-retour entre les romans noirs de la série noire et le cinéma qui vont augmenter sa notoriété. Et puis au milieu des années 50, des Français vont enfin débarquer. Mais ce qui va débarquer, c'est le milieu, les mauvais garçons à la française. Et cette langue des titis parisiens, qu'on va d'ailleurs retrouver rapidement au cinéma. Auguste Le Breton, avec Thury Fifi dans Les Hommes, chez les Hommes, pardon, 1954. Razia sur la Schnouf, et la même année, Albert Simonin avec son fameux Le Cave se rebiffe. Il y a aussi Antoine Dominique avec toute sa série sur le gorille. Alors ça, vraiment, si vous pouvez vous en passer, c'est possible. Il y a un film, c'est Roger Hanin qui fait le gorille. Voilà. Et on va avoir un autre travers.
Ou Lino Ventura.
Tout à fait, oui. Après, c'était Lino Ventura. On va avoir un autre travers peu glorieux de cette collection. Utiliser cette langue ô combien fleurie dans les traductions de romans américains. Et Le Petit Gars de Brooklyn ou de Chicago avec l'accent et les mots de Ménil Buch, ça le fait pas. Alors, pour peut-être faire un petit break, justement, on en était au roman et au film des mauvais garçons, du Ménil Buch des années 50. On va passer un petit morceau de musique.
Un petit extrait du film de Jules Dassin, donc du Rififi chez les hommes, qui était donc, comme tu viens de le dire, un roman d'Auguste Le Breton, le numéro 185 même de la série noire. Et c'est un fameux solo d'harmonica chromatique, enfin fameux en tous les cas à l'époque, hein, parce que maintenant je pense que beaucoup l'ont oublié, la musique est composée par Jacques Larue et Philippe Gérard.
Ces années, par le numéro 370, et un petit inconnu, du moins à cette époque, Ed McBain. Le titre traduit, c'est Le Sonneur, et c'est là qu'il entame en France sa très célèbre série du 87e district. C'est un modèle, un précurseur de nombreux romanciers des années 1990, mais aussi de nombreuses séries américaines ou autres, avec une brigade complète dont on va suivre non seulement les enquêtes, mais la vie personnelle. Et puis, dans les années 50-60, on va aussi retenir de ces années-là un romancier totalement estampillé série noire, puisque découvert par Marcel Duhamel, je dirais même sauvé par Marcel Duhamel. C'est Chester Himes. Alors, c'est un de ses romans les plus célèbres, La Reine des Pommes, paraît en 1958 avec ce fameux duo, ce duo improbable de Ed Fossoyeur et de... Non, Fossoyeur Jones, pardon, et Ed Cercueil, ces deux flics qui se baladent avec une voiture haute en couleur dans Harlem. C'est une façon de décrire Harlem, mais c'est pas très, très réaliste. En tout cas, c'est drôle, c'est enlevé et c'est très bien écrit.
Ceci dit, ça décrit quand même la condition de...
On voit la misère dans Harlem de manière très bien décrite. Et puis, dans ces mêmes époques-là, il faut les piocher parce que on trouve John D. MacDonald, un grand du roman noir américain, mais aussi les premiers Donald Westlake. Puis il y en a un petit qui pointe son nez, puis qui n'a pas fini d'en faire parler vu les affiches qu'on voit en ce moment. Ce petit, son nom, il commence par un I, IF, hein. Ian Fleming, qui commence à écrire Chaud les glaçons, hein, est paru pour la première fois en série noire. Et Dieu sait si les James Bond ont encore une longue vie. Alors on va arriver au numéro 1000.
Moins en roman quand même.
Numéro 1000, un des maîtres du roman noir américain, Jim Thompson, avec 1275 âmes. Vous avez l'impression que vous ne connaissez pas ce livre, mais si, parce que vous avez vu au moins l'adaptation cinématographique. Ça s'appelle Coup de torchon, c'est de Bertrand Tavernier. Bertrand Tavernier a transposé une histoire qui se passe au départ dans un coin perdu du Texas, en Afrique coloniale. À redécouvrir absolument. Et le livre, et le roman. Et puis...
Et le film.
Ah pardon, excusez-moi. Oui, c'est le livre, le roman et le film, bien entendu. On a aussi Robin Cook, le maître du roman noir anglais, qui pointe son nez en 1966. Jim Thompson, Le démon dans la peau. Il y a eu un film il n'y a pas longtemps. Superbe roman. Duhamel continue de publier tous les auteurs qui ont fait son succès, Westlake, Goodis, Thompson, Carter Brown, Lawrence Bloch. Et puis, en 71, un petit Français pointe son nez. Son nom, c'est Jean-Patrick Manchette, Laissez bronzer les cadavres, avec Jean-Pierre Bastide, suivi de très près par l'affaire N'Goustreau. Et Manchette, là, va amener un grand renouveau dans le polar. C'est à la base de ce qu'on a appelé le néo-polar, dont beaucoup d'auteurs des années 80, 90, 2000 et encore actuels se revendiquent. Manchette, passionné de jazz, mais aussi très politisé, militant, comme on dit, gauchiste, et le néo-polar met en scène non plus des truands, des détectives privés, mais des gens issus de la classe moyenne, avec une nostalgie certaine de la Révolution. Dans l'affaire N'Goustreau, par exemple, Manchette évoque sans détour l'affaire Ben Barka. Dans Nada, l'écrivain s'en prend aux dérives des gauchistes et évoque les dérives terroristes de ses anciens camarades. Nous, celui qu'on vous conseille, c'est Le Petit Bleu de la Côte Ouest. Et à sa suite, toute une kyrielle d'auteurs dont je vais parler un petit peu juste après vous avoir dit qu'en 1977, Jacques Duhamel, Marcel Duhamel quitte la scène et arrive son successeur, Robert Soula, qui travaille avec lui depuis un moment. Alors lui, sa déclaration d'intention, elle est très intéressante parce qu'elle prévaut encore aujourd'hui dans beaucoup de collections polars. Le thème générique de la série noire, c'est la violence sociale avec ses sous-entendus politiques ou sociologiques. Cela implique une soumission à l'actualité. La série noire reste elle-même dans ses exigences formelles et en même temps, elle change à mesure que change le visage de la violence. Je crois que cette déclaration de Soula convient à la série noire et à d'autres collections jusqu'à aujourd'hui. À la suite de Jean-Patrick Manchette, vont donc apparaître toute une génération d'auteurs au milieu des années 80. Alors j'en cite quelques-uns, on n'a que 20 minutes. Hein. Jean-Bernard Puy, Marc Villard, Jean-Hugo Pell, Didier Deninck ou encore Thierry Jonquet qui est à redécouvrir avec Migal, avec Les Orpailleurs, Hervé Prudhon, Jean Vautrin qui vient de disparaître malheureusement, Joseph Biallot, Tito Taupin, tant d'autres qui se sont référés à un moment ou à un autre à ce néopolar, même si, plus tard, ils ont suivi d'autres chemins. En 1991, Patrick Reynal succède à Robert Soula, qui lui aussi vient de disparaître. C'est une époque très particulière pour le roman noir, pour le polar. En effet, c'est une littérature de genre qui est, à cette époque-là, très décriée. Les écrivains comme Raynal, Puy, Jonquet, Denain, Coppel, Villard, enfin tous ceux que je vous ai cités, voudraient bien débarrasser et le polar et la série noire de ces oripeaux de littérature de gare. Une littérature vite oubliée, tout simplement parce qu'elle a cette réputation d'être mal écrite. On revient à cette fameuse histoire où on a l'idée qu'elle est mal traduite, donc qu'on va avoir des livres qui ne sont pas très intéressants. Donc, quand Parrenal prend la suite de Soula, il y a encore d'horribles publicités au dos des couvertures, et ça, c'est la première chose qu'il fait, il s'en débarrasse. Et puis, il y a aussi la concurrence appuyée d'un petit, là, qui lance Rivage, François Guérif, et qui vise les auteurs de la série noire, Jim Thompson en tête, en expliquant que les trades de la série noire, c'est juste indécent. Il faut donc changer le look, revoir les traducteurs, y mettre le prix, on revient donc au classique. Pour des traductions de qualité, Patrick Raynal va imaginer une collection annexe, La Noire, qui sera le pendant de la célèbre NRF, La Blanche de Gallimard. Si vous regardez deux couvertures, une de blanche, une de la noire, elles sont exactement semblables, l'une en positif, l'autre en négatif. Le premier de la collection, c'est tout simplement un roman d'un maître du genre, James Crumley. Ça s'appelle « Un pour marquer la cadence », le numéro 1. On s'amuse un peu du côté de Gallimard.
Bien qu'ils n'étaient pas numérotés dans La Noire.
Exactement. Les années Patrick Raynal, eh bien, il va y avoir beaucoup d'auteurs, il va y avoir beaucoup de traductions qui ne vont plus venir de l'Amérique ou de l'Angleterre. Il va y avoir, par exemple, de merveilleux romans traduits de Federico González Ledesma, ou bien encore de Rollo Diez, l'Argentin. Ça, si vous tombez sur Lune écarlate, c'est un pur chef-d'œuvre.
Ou Carlo Lucarelli, l'italien.
Carlo Lucarelli, l'italien. Voilà, il n'y a plus que de la il n'y a pas que de la traduction anglaise. Et puis, c'est aussi l'époque. On en parle parce qu'il n'est pas loin d'ici et parce que pour nous, c'était un grand écrivain. C'est aussi l'époque de Jean-Claude Itso, un écrivain de grand talent. Énorme succès avec sa trilogie marseillaise, Total Kéops, Chourmeau, Soléa. Une trilogie qui vient de ressortir l'été dernier en un seul volume chez Folio Policier. Donc, on va arriver tranquillement au XXIe siècle, 2005. Heureusement, Patrick Raynal ne disparaît pas, mais Aurélien Masson prend sa suite. Patrick Raynal est toujours vivant. Masson travaillait déjà avec l'équipe de Raynal. Quand celui-ci s'éclipse, il prend le relais avec une révolution dont on parle encore beaucoup dans le petit monde du polar. Excite la mythique collection de poche, une seule collection grand format, on est dans le monde du marketing, et les arguments du nouvel éditeur sont nombreux. Payer mieux les auteurs et les traducteurs, meilleure lisibilité chez les libraires, travail plus complet pour la mise en place. Voilà, maintenant, nous en sommes à l'époque où 8-10 livres sortent à la série noire chez Gallimard par an. On retrouve des auteurs maison qui existaient déjà, tels que John Esbeu, tels que Caril Ferré. Et puis, on en découvre des bien beaux. On en voit arriver de magnifiques, comme D.O.A. ou Antoine Chénas, Dominique Manotti, Patrick Péchereau, qui était déjà à la série noire avant. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à aller chez votre libraire et piocher dans les anciennes ou plutôt dans les nouvelles. Je vous recommande deux façons de vous y retrouver un peu plus. D'abord, il y a un numéro spécial de la revue 813, enfin tout au moins un numéro avec un gros dossier, c'est le numéro 120, avec donc un gros et beau dossier sur la série noire. Et puis égoïstement, allez piocher un petit peu dans les archives du site Ondes Noires, vous y trouverez de nombreuses chroniques consacrées aux romans récemment édités dans cette collection mythique. Voilà, on va attendre.
On se retrouve après les informations.